donc, vous vous rappelez, en juin 99, c'est vraiment une situation de crise pour le régime. Il y a une double crise. Il y a d'une part les gauches, la gauche extrême qui se met à remuer. Je vous ai raconté que le 11 juin 1899, il y a eu pour la première fois une très violente manifestation où les ouvriers et les intellectuels du quartier latin, enfin les étudiants, étaient mêlés. Et d'autre part, il y avait un danger militariste évident. Je ne vous ai pas dit, et il faut que je le dise maintenant, que le 23 février 1999, la France avait été sur le bord de ce qu'on appellera plus tard un putsch militaire. Ce 23 février, c'était les obsèques du président de la République, Félix Faure, qui était mort brutalement, comme vous savez. On avait nommé à sa place Loubet. Félix Faure plaisait beaucoup à la droite nationaliste parce qu'on savait qu'il s'opposait à la révision de l'affaire Dreyfus, qu'il aurait voulu que Dreyfus restât condamné, tandis que Loubet, nouveau président de la République, inclinait plutôt à cette révision. Et il était mort le 16 février, Félix Faure, et c'était le 23 qu'on allait lui faire des obsèques nationales. Obsèque nationale, le président de la République, vous vous rendez compte quel déploiement de troupes, on avait fait venir des tas de quantités de régiments, et il y avait une immense défilé militaire qui allait se produire dans Paris. Alors, on sait aujourd'hui, quoique la lumière ne soit pas entièrement faite sur les dessous de l'affaire, on sait aujourd'hui qu'il y avait trois généraux qui étaient dans le coup, et en particulier le général Roget, et il était question que, à la fin du défilé militaire, lorsque les troupes se dirigeraient vers leur caserne, le général Roget, au lieu de ramener ses troupes à la caserne, les dirigerait sur l'Élysée. Et s'emparerait de force de la présidente de la République, régime militaire. Finalement, il s'était dégonflé. Le général Roget était en rapport avec Déroulède, vous savez, le nationaliste Déroulède, Chant du Soldat, etc., avec Barrès et d'autres. Et lorsque les troupes sont arrivées place de la Nation, Déroulède, selon le plan prévu, se précipite, prend la bride du cheval du général Roget et lui crie « Mon général, à l'Élysée ». À ce moment-là, le général Roget est pris d'une surdité subite. Il oublie d'aller à l'Élysée et il ramène tranquillement les troupes à la caserne. Il avait pris peur. Cependant, le comte de Paris, c'était même à ce moment-là Philippe d'Orléans, oui, le fils du comte de Paris, qui était le prétendant orléaniste, avait, paraît-il, revêtu son uniforme militaire et il était tout prêt à suivre le général pour s'installer à l'Élysée. Il n'y avait rien produit. Mais on l'avait su, plus ou moins. On avait su, du côté de la gauche et de l'extrême gauche, que ce jour-là, on avait frôlé le coup d'État militaire, ce qu'on appellerait aujourd'hui un putsch fasciste. On le savait dans les hautes sphères gouvernementales. Mais mettre en cause des généraux, c'était une chose dangereuse, alors on va s'arranger pour en parler le moins possible. Toujours est-il qu'au mois de juin, il y avait ce double danger, agitation populaire et agitation militaire. Alors comment en sortir? Le président de la République, Loubet, va chercher un président du Conseil, c'est pas commode, il faut trouver quelqu'un de neuf et puis qui donne confiance. Et il va finir par choisir Waldeck Rousseau. Waldeck Rousseau, 53 ans, c'est un avocat d'affaires. C'est un homme extrêmement distingué, il appartient naturellement au centre-gauche qui va s'appeler maintenant l'Alliance démocratique, parce que le centre-gauche changera de nom. Il était centre-gauche au départ, il a été ensuite les progressistes, il s'appelle maintenant Alliance démocratique. Ce monsieur Waldeck Rousseau est entouré d'une grande estime, et il ajoute à son estime par son attitude britannique. C'est un homme qui parle très peu, qui a des yeux glacés, qui est inabordable, qui est très intelligent, et qui en impose, si je puis dire. Waldeck Rousseau est carrément, au point de vue conservateur, un homme de droite, enfin tout à fait nettement. On l'a même vu aux dernières élections en 1998, qui personnellement était allé s'opposer à des candidatures socialistes pour empêcher de passer Jules Guedd, qui se présentait à Lille, et pour empêcher de passer Jaurès, qui se présentait à Carmaux. Par conséquent, à gauche, on ne peut pas se faire d'illusions sur ton attitude sociale, c'est un conservateur. Mais d'autre part, c'est vraiment un républicain, entendez-moi bien. Quelqu'un qui désire qu'on continue à avoir cette république bourgeoise, cette république conservatrice, et qui considère que ces casseurs de l'extrême droite, les bonapartistes, les putschistes, enfin les généraux, sont des imbéciles, parce qu'ils sont capables de détruire une machine dont le fonctionnement est excellent. Waldeck Rousseau a les yeux ouverts, il s'est aperçu que depuis 1871 et depuis 1879, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les républicains, c'est un régime en or pour l'économie accaparée, enfin pour les affairistes. Alors surtout, il ne faut pas que des idiots détruisent une machine qui donne un rendement si excellent. Alors il est absolument décidé à faire ce qu'il va appeler, d'un mot séduisant, la défense républicaine. Il aura du mal à constituer son ministère, et il les constitue avec une double idée. Alors, sa première idée, c'est de faire ce qu'on appellera plus tard une ouverture à gauche. Pour la première fois, il va faire appel à un socialiste. Jamais encore la France n'avait vu un ministre socialiste parmi le cabinet. Ben, Waldeck Rousseau s'est dit, je m'en vais en inviter un. Et d'autre part, il y aura une compensation, je prendrai au ministère de la guerre, qui est un ministère extraordinairement important maintenant à cause de l'armée, je prendrai quelqu'un de très rassurant. Alors il va faire un étrange cabinet, où vous allez avoir Caillaux, et M. Caillaux, qui aura un grand rôle, comme vous le verrez tout à l'heure, était un homme qui s'affirmait partisan de l'impôt sur le revenu. Alors, vous savez bien que l'impôt sur le revenu était détesté de la droite. Néanmoins, Valdés-Rousseau dit « je vais faire appel à Caillaux ». Alors, les gens de gauche vont se dire, avec un ministère où Caillaux prend sa place, l'impôt sur le revenu va enfin être établi. Et je vais prendre un socialiste. En réalité, comme nous le saurons par les carnets publiés en 1955 seulement du président de la République, Loubet, Valdés-Rousseau avait donné en tapinois, bien sûr, en fait tout bas, des assurances à Loubet. Il lui avait dit, écoutez, monsieur le président de la République, ne vous effrayez pas de ce que je vais faire. Ce que je veux, c'est avoir un cabinet qui obtienne le soutien des voix socialistes, des voix de l'extrême-gauche. Mais rassurez-vous, il n'y aura jamais d'impôt sur le revenu. J'y veillerai. Quant à la présence du socialiste dans mon cabinet, ça ne sera pas dangereux. Je le tiendrai dans ma main pour qu'il n'en fasse pas trop. Alors, en effet, le 26 juin 1999, ce ministère se présente. La droite n'est pas rassurée, elle ne sait pas. Enfin, est-ce que Valdés-Rousseau serait un traître? Est-ce que quelqu'un qui a pris Caillaux et qui va prendre ce socialiste migrant ne serait pas quelqu'un qui est en train de nous abandonner? Si bien qu'il va frôler l'échec, et il faut qu'un vieux radical, Brisson, je crois, fasse le signe maçonnique de détresse. Je ne le connais pas bien, mais il paraît que c'est un signe levant les mains au-dessus de sa tête pour indiquer aux francs-maçons de l'Assemblée « Allez-y ». Les francs-maçons, à ce moment-là, sont presque tous des conservateurs au point de vue social. « Allez-y, n'ayez pas peur, Valdés-Rousseau ne nous trahira pas. » Toujours est-il que ce 26 juin, avec une très faible majorité, il obtient que son ministère soit accueilli par la Chambre. Qu'est-ce qu'il a mis au ministère de la Guerre? Il a mis Galiffet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Galiffet, c'est un général qui ne s'était pas tellement illustré militairement, mais qui s'était terriblement illustré au moment de la répression contre la Commune. Galiffet s'était même spécialisé dans une chose particulièrement horrible, c'était ce général Galiffet qui se faisait charger chaque fois, chaque jour, lors de la semaine sanglante, c'est-à-dire la semaine de la répression, entre le 21 et le 28 mai 71, c'était lui qui se faisait charger de conduire les captifs, les prisonniers qu'on avait fait, prisonniers communards, de les conduire jusqu'à Versailles. Et il s'était vanté, enfin ça lui paraissait extraordinairement sympathique, d'avoir procédé lui-même à des épurations dans le nombre des prisonniers qu'il conduisait. On sait qu'à plusieurs reprises, ayant à conduire 1000 ou 1200 prisonniers, et avant, en fait, dès qu'ils étaient sortis de Paris, il les faisait mettre en rang. Puis il passait devant eux, il les regardait, et il faisait sortir des rangs ceux qui avaient des cheveux blancs, en disant, vous, vous êtes un révolté de maintenant, mais vous avez des cheveux blancs, donc vous étiez probablement un récidiviste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'était déjà révolté en juin 48, fusillé. Une fois, c'était le 26, oui, c'était le 26 mai, il avait à conduire 1200 bons hommes et bonnes femmes, enfin, il y avait des femmes aussi, et il en avait fait tomber immédiatement, comme ça, en disant « Toi, sors du rang fusillé », il en avait fait tomber 110. 110 sur les 1200 qui conduisaient. Il s'était vanté, quoi, c'était l'homme couvert de sang, en disant « Parfaitement, je suis le boucher de l'ordre ». Eh bien, c'est cet homme terrifiant, enfin, ce général couvert du sang du peuple, qu'on va voir dans un gouvernement s'asseoir à côté du socialiste migrant. Ça avait été toute une histoire, ça avait dans le Parti Socialiste, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, enfin, est-ce qu'on autorise migrant à s'asseoir à côté d'un homme pareil. Mais Jaurès, et je vous en parlerai, Jaurès s'était dit, c'est tout de même un signe intéressant de penser que quand la bourgeoisie est inquiète, elle a besoin de faire appel à l'énergie socialiste pour défendre la République. Bien sûr que le mot « République » dans la pensée de Valdés-Rousseau n'a pas le contenu que nous, socialistes, nous lui donnons, mais c'est quand même la République, c'est quand même le suffrage universel, c'est quand même la possibilité d'ouvrir les yeux aux électeurs. Alors défendons, soutenons ce ministère Valdés-Rousseau, on verra ensuite. La première urgence, bien entendu, c'est de régler cette terrible affaire Dreyfus. Nous sommes donc en juin 1999. La Cour de cassation s'est prononcée, il a été décidé que la condamnation portée en 1994 contre Dreyfus était cassée, qu'il faut refaire un nouveau procès Dreyfus. Il était au bagne, vous le savez, Dreyfus, il était l'ex-capitaine Dreyfus. Mais puisqu'on a cassé le jugement, il redevient le capitaine Dreyfus. Il a le droit de remettre son uniforme. Et on va le ramener de Cayenne, enfin de l'île du Diable jusqu'à Paris, jusqu'en France, pour lui faire repasser un procès. Il revient, ce pauvre Dreyfus, il revient, on a dit, c'était Lazare sortant du tombeau, après ce qu'il avait passé là-bas, ce qui était plutôt rude, je vous assure, en Guyane. Il était tout maigre, il était tout pâle, son uniforme militaire flottait sur lui. Et Valdés-Rousseau a décidé que le nouveau procès ne se déroulerait pas à Paris, étant donné l'extrême tension des Français, la France divisée en deux, vous savez, la vraie France avec l'armée contre Dreyfus, l'autre France, la France de gauche pour Dreyfus. Valdés dit, non, pas à Paris, il y aura toute agitation, on va faire ce second procès à Rennes. À Rennes, c'est loin de Paris, c'est en Bretagne, c'est un pays tranquille, il y aura peut-être moins de journalistes, enfin moins d'agitation, Rennes. Mais quel est le véritable fond du problème? Ben voici. La Cour de cassation, quand elle avait décidé qu'elle brisait, enfin qu'elle cassait, le jugement prononcé en décembre 1994, avait déclaré dans ses considérants que de toute manière, le procès était à revoir, était à refaire, parce qu'il avait été commis une très grave irrégularité, en fait une forfaiture, mais on n'emploiera pas le mot, une irrégularité très grave dans le procès. Laquelle ? C'est que le général Mercier, ministre de la guerre au moment du procès, avait communiqué un dossier secret au juge militaire. Et vous savez bien que dans tout procès civil et militaire, on n'a pas le droit de faire intervenir des pièces à l'insu de l'accusé et à l'insu de son avocat qui était maître de manche. Alors naturellement, étant donné qu'il y avait ceci dans les considérants, l'extrême gauche, avec Viviani, avait dès le 5 juin déposé une proposition de mise en accusation du général Mercier, en disant « Le général Mercier, ministre de la guerre, a commis une forfaiture, il doit passer en haute cour ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça pouvait être qu'à ce moment-là, de faire passer un général et un ministre de la guerre en haute cour. Nous, les Français, depuis, on a été habitués à voir passer des généraux en jugement, mais à ce moment-là, jamais. C'était quelque chose de monstrueux, c'était véritablement un sacrilège. Alors le gouvernement en place à ce moment-là, c'était Dupuis, avait été assez malin. Il avait dit, oui, c'est évident, le général Mercier s'est mis dans un mauvais cas, mais alors attendons, disait-il à la Chambre, attendons le résultat du nouveau procès qui va s'ouvrir à Rennes. Et si, dans ce procès, il est décidé que Dreyfus est de nouveau reconnu coupable, eh bien on passera l'éponge. C'est entendu, le général Mercier a fait quelque chose d'incorrect, mais enfin il l'a fait pour le bien de la France, puisqu'il a aidé à démasquer un traître et un espion. En revanche, si le procès de Rennes aboutit à déclarer Dreyfus innocent, eh bien, nous frapperons, hélas, nous frapperons le général Mercier. Mais vous pensez bien qu'on ne voulait pas frapper le général Mercier. Alors, quelle était la pensée secrète de Valdecrousseau et de Gallifet ? C'était de s'arranger même s'il le fallait avec la famille Dreyfus, Mathieu Dreyfus, avec l'avocat, le nouvel avocat de Dreyfus, qui s'appelait Laborie, pour que, de toute manière, Dreyfus soit semi-condamné. On va vous le rendre à peu près à l'état de neuf, votre petit juif. Mais en tout cas, pour qu'il soit quand même condamné et quand même reconnu coupable, de telle manière que le général Mercier fût innocenté. Pour ça, il s'agissait d'empêcher Esterhazy d'apparaître. Vous savez bien qu'Esterhazy était le véritable auteur du bordereau, un bordereau qu'on l'avait obligé à écrire. On savait qu'Esterhazy était un traître. Il avait du reste avoué lui-même, Esterhazy, réfugié en Angleterre, c'est moi qui ai écrit le bordereau, mais je l'ai écrit par ordre. Alors il ne fallait surtout pas qu'au procès de Rennes apparût cet Esterhazy qui pouvait perdre la tête, qui pouvait dire « ben oui, j'ai fait ça parce que le général Saussier était compromis ». Surtout pas, hein, pas prononcer les noms de généraux. Pas Saussier, pas Mercier, rien. Alors à quoi ça va aboutir ? Ben ça va aboutir à ceci, à un jugement invraisemblable, prononcé le 7 septembre, non, le 9 septembre 1999 par le tribunal de Rennes, qui va recondamner Dreyfus, mais avec circonstances atténuantes. On n'y comprend rien, hein ? On se demande ce que peuvent être des circonstances atténuantes d'un traître. Cette fois du reste, le jugement n'a pas été prononcé à l'unanimité, il a été prononcé à la majorité des voix. Sur les 7 juges militaires, 5 l'avaient reconnu coupable, 2 avaient dit qu'il était innocent, mais enfin il y avait la majorité. Donc Dreyfus était de nouveau reconnu coupable. Mais on s'était déjà arrangé, c'était entendu avec Valdecrousseau et le président de la République, que cette condamnation de Dreyfus n'aboutirait pas à ce que Dreyfus repartit au bagne, pas du tout, on allait faire intervenir une grâce présidentielle, on allait gracier ce Dreyfus. Et 10 jours après cette drôle de condamnation de Rennes, il avait été entendu en effet que Dreyfus était rendu à la liberté, il était gracié. Vous vous rendez compte de l'opération ? C'était admirable ce que faisait au fond Gallifet. Il était d'une intelligence exceptionnelle. Il avait sauvé l'armée qui s'était mise dans un cas terrible. Il avait sauvé l'armée malgré elle. Il avait du reste pris une attitude extrêmement autoritaire à l'égard de l'armée. Vous savez, Gallifet, c'était un homme qui n'avait pas fait la carrière qu'il aurait voulu faire. Il desséchait d'être ministre de la guerre. Il avait flatté et entouré de flagorneries Gambetta, lorsque Gambetta avait été un moment au pouvoir en 81, pour obtenir de lui qu'il fût ministre de la guerre. Le voilà maintenant. C'est un homme qui n'était pas très aimé dans l'armée. Il avait un passé assez lourd, vous savez, il avait fait sa carrière grâce aux complaisances de sa femme. Alors il avait des rancunes. Et il était trop content d'être maintenant ministre de la guerre pour appliquer des sanctions à des camarades qu'il détestait. C'est pourquoi on va le voir, par exemple, frapper le général Négrier. Il lui inflige une sanction. Il détestait Négrier. Parce que Négrier s'est occupé de politique. Et Gallifet dit, l'armée, c'est la grande muette. L'armée ne doit pas parler. On lui fait la... Enfin, j'allais dire, on lui fait la gueule, pardonnez-moi. On lui bafoua, c'est comme ça qu'on dit quand on parle bien. On lui bafoua au Jockey Club, dont il était un membre éminent. On dit, en fait, c'est un homme qui traite des généraux d'une manière inadmissible. Mais c'est un homme qui use d'une violence apparente à l'égard de l'armée pour lui tirer cette épouvantable épine qu'elle avait dans le pied. Du reste, la grâce que l'on accorde à Dreyfus, c'est très humiliant, cette grâce notée. Ça prouve quelqu'un qui accepte la grâce, qui s'était reconnu coupable. Dreyfus dit, ben, j'aime encore mieux être gracié que de repartir au bagne, mais il est tout à fait décidé personnellement, et sa famille aussi, et les Dreyfusards aussi, à obtenir la réhabilitation. Mais cette grâce n'est que le prélude d'une amnistie. C'était la grande idée de Gallifet, hein, passer l'éponge. Il fallait qu'on n'en parlât plus. Du reste, pas mal de journaux, y compris même Le Figaro, qui avait pris fait et cause pour Dreyfus, disait depuis plusieurs mois, c'est une affaire qui empoisonne la vie politique française. L'année prochaine, 1900, c'est l'exposition internationale. Le monde entier va venir à Paris. Il ne faut pas que les étrangers aient le spectacle de Français qui se dévorent le nez. Alors passons l'éponge. Si bien qu'effectivement, à la fin de l'année 99, Valdecrousseau va déposer un projet d'amnistie tout de suite voté du reste, qui signifie ceci. Entendu, l'innocent n'ira plus au bail, l'innocent est gracié, quant au coupable, on n'y touchera pas. Ce qui va faire dire à un journaliste de gauche qui s'appelait Julien Benda, et qui écrit ça dans la Revue Blanche, depuis 5 ans, on nous répète que nos généraux sont insoupçonnables, et maintenant on s'empresse de les amnistier d'avance. Toujours est-il que le tour était joué, l'armée était sauvée, Gallifet envoie une circulaire à tous les chefs de corps en leur disant « l'incident est clos ». C'est assez beau, hein, ce mot « incident » à propos de l'affaire de Dreyfus. « L'incident est clos, qu'on n'en parle plus ». C'était du beau jeu, hein, c'était bien travaillé. Il s'agissait maintenant de passer à la grande politique. Ah ça, c'est plus Gallifet qui s'en occupe, c'est Valdecrousseau. La grande politique. Comme il a admis un socialiste dans son cabinet, comme il compte sur l'appui des voix socialistes, il va donner une apparence de satisfaction à l'extrême gauche en laissant s'organiser à Paris le 19 novembre 1999, une énorme manifestation républicaine. On allait ce jour-là inaugurer la statue de la République de Dalou, vous savez, la belle statue de la République, avec ses seins nus, avec un lion, avec la justice, etc. Et il autorise, Valdecrousseau, un défilé révolutionnaire où il laisse venir des drapeaux rouges et il va y avoir 500 000 ou 300 000 Parisiens d'extrême gauche qui vont défiler entre la Nation et la Bastille en acclamant la République et en conspuant l'écurie. C'était assez amusant, vous savez, de penser que les flics étaient là, comme d'habitude. Les flics devaient, toutes les fois qu'on voyait des drapeaux rouges, se jeter sur les drapeaux rouges pour les casser. Et Peggy nous racontera, dans un très bel article qu'il avait publié dans le Mouvement Socialiste, nous racontera cette manifestation où les flics étaient médusés, ils étaient là par ordre, organisant simplement le service d'ordre, regardant avec des yeux terrifiés ces drapeaux rouges, se laissant engueuler par la foule. Le président de la République était là, le président du Conseil était là, il saluait au passage les drapeaux rouges, tout le monde chantait l'international, l'immense et grave international, comme dit Peggy. Enfin, ça avait été la grande fête révolutionnaire, on pouvait croire que ça y était, hein, que c'était vraiment la République qui était fondée. Mais d'autre part, Valdecrousseau avait pris à part Caillaux et lui avait dit « Écoutez, mon ami, n'allez pas trop fort, entre cette question de l'impôt sur le revenu, les temps ne sont peut-être pas mûrs. » Et Caillaux, je dois le dire, qui était ambitieux, avait accepté de ne présenter que mollement son projet d'impôt sur le revenu. Quant à Millerand, le socialiste, l'unique socialiste du ministère, il était ministre du Commerce et de l'Industrie. Et je voudrais vous apporter là une citation du journal Le Temps, le journal des grandes familles protestantes, pas le journal sérieux et objectif, qui disait « Après tout, c'était en juin 1900 qu'il écrivait ça, Le Temps, après tout, les idées de M. Millerand ne diffère pas essentiellement de celle des plus modérés de ses prédécesseurs. » Bon, c'était donc tranquille de ce côté-là. Oui, mais enfin, il y avait une certaine urgence, quoi. Il fallait défendre la République. Et le fait est qu'il fallait la défendre sur 2 points. D'une part, du côté des militaires, on ne va pas poursuivre les généraux à cause de leur push. Pas du tout, on ne poursuivra que les civils, hein. Les généraux, on n'en parlera pas. Mais il faut tout de même la surveiller, cette armée. Alors, comme Valdecrousseau a vu Gallifet le quitter pour des raisons personnelles en mai 1900, Valdecrousseau a appelé à la place de Gallifet un autre général républicain, celui-là tout à fait, qui s'appelait le général André. Et le général André va exercer une réelle surveillance sur l'attitude politique des militaires afin qu'ils ne se compromettent pas une seconde fois. Ça, c'est pas très important. Ce qui est très important, c'est qu'étant donné qu'il y a cette poussée socialiste et une montée des faubourgs, enfin pour réclamer un peu de justice sociale, pour pouvoir vivre, pour pouvoir respirer et élever leurs gosses, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Valdecrousseau va recommencer le coup de Jules Ferry. Vous vous rappelez que Jules Ferry, en 79, s'était dit « mais il y a un danger rouge qui commence à revenir ». Alors il faut absolument faire une diversion salvatrice. Il faut orienter l'esprit des masses, non pas du côté des coffres-forts, mais du côté des curés. Et le fait est, vous savez, qu'en 1900, l'Église, les ecclésiastiques français, s'étaient mis de nouveau, comme sous Mac Mahon, dans un bien mauvais cas. Ils avaient pris parti massivement contre Dreyfus. Les gens qui défendent Dreyfus disaient « nous parlons au nom de la justice et de la vérité ». Et on voyait la presse catholique ridiculiser ces mots-là et appeler les Dreyfusards les justiciards et les véritards. Je vais vous apporter des citations. L'archevêque de Toulouse, par exemple, à la veille des élections de 98, avait lancé à ses diocésains un mandement où il dit « On ose s'en prendre maintenant à nos chefs militaires. C'est une véritable insurrection contre la justice. Ce que veulent les gens de gauche, c'est réhabiliter un traître, Dreyfus, et accabler un innocent, c'était Sterazzi. Il y avait La Croix, qui était le grand journal des assomptionnistes du révérend Père Bailly, La Croix avec ses 108 éditions provinciales, qui faisait 1 million d'exemplaires, et La Croix se déchaînait contre les Dreyfusards, et La Croix disait qu'il fallait absolument arracher la France aux traîtres. Il y avait eu une souscription lancée par la libre parole de Drumont, souscription en faveur de la veuve du colonel Henri, l'homme qui avait fait le faux, et qui avait avoué faire le faux, et qui s'était suicidé. Alors on avait vu dans cette souscription des choses abominables, 300 ecclésiastiques, qui avaient officiellement, avec leur nom, participé à la souscription, 3 curés demandant, enfin donnant 100 sous, pour appliquer, écrivait-il, pour appliquer leurs 30 doigts sur la figure immonde du juif Rénac. Il y avait un certain abbé Cross qui avait osé écrire ceci pour une descente de lit en peau de youpin, afin que je puisse la piétiner le matin et le soir. Il y avait le révérend père Didon à une distribution des prix d'un collège religieux, bien sûr, sous la vice-présidence du général Jamon, qui était du Conseil supérieur de la guerre. « Il faut sévir, il faut frapper », avait dit le révérend père Didon. « La force armée, ainsi employée, n'est plus une puissance brutale, elle devient énergie bienfaisante. » Il y avait la revue romaine, catholique, Civilta Catholica, des jésuites, qui avait dit « On parle d'une erreur judiciaire ?»« Bien, je vais vous indiquer, disaient les jésuites, quelle a été la véritable erreur judiciaire. Elle a été commise par la constituante, qui l'a commise en 1791, quand elle a accordé des droits civiques aux juifs. » Vous voyez, il y avait tout de même quelque chose à faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Valdecrousseau? Il se rend bien compte qu'il y a 52%, vous entendez, 52% de la population scolaire française qui est entre les mains de l'Église. Il sait d'autre part que ce que l'on appelle les biens de main morte, c'est-à-dire qui échappent au droit de succession, s'élève du côté des couvents à plus d'un milliard. Alors, il va faire sa fameuse loi de juillet 1901, loi des associations, loi parfaitement libérale. C'était très malin d'avoir glissé dans cette loi libérale un certain article. Toutes les associations, il suffit qu'elles se déclarent pour être autorisées, sauf les jésuites, sauf les congrégations. Faites attention, hein, Valdecrousseau était un homme malin et qui ne voulait pas pousser très loin cette persécution, si l'on peut appeler ça persécution. Il était de la ligne de Ferry, dont vous vous rappelez qu'après que Ferry, dans son article 7, avait dit expulsion des jésuites, dès les années suivantes, il les avait laissés tous rentrer. Ils étaient tous là, enfin, les congrégations avaient de nouveau leur puissance. Mais voilà que Valdecrousseau est malade. Il a un cancer au foie. Et cet homme de 53 ans va être emporté dans l'année 1902, qui est justement l'année de nouvelles élections. Ces élections avaient été préparées furieusement par la droite, au point que dans un pèlerinage d'hommes qui s'était déroulé en avril 1901 à Lourdes, le révérend père Coubet, qui s'était adressé à ses pèlerins, qui n'aurait pas dû les appeler « mes frères, mes messieurs », puisque c'était un slogan électoral qu'il leur apportait, il leur avait dit, ce révérend père Coubet, « l'année prochaine, dans moins d'un an, il va y avoir des élections. Il n'y aura que 2 candidats aux élections. Il y aura Jésus-Christ d'un côté et Barabbas de l'autre. Jésus-Christ, bien entendu, les conservateurs, Barabbas, les républicains. » Ben, malgré toute cette agitation, c'est encore les Républicains qui avaient gagné. Ils avaient une très considérable majorité, et on voyait de nouveau l'Alliance démocratique, c'est-à-dire l'ancien centre-gauche, qui faisait de l'anticléricalisme militant, sachant qu'ainsi il se protégeait. Qui va prendre le pouvoir maintenant, puisque Waldeck est malade et s'est retiré? Eh bien, c'est ce qu'on appelait le vieux père Combe. Il a 67 ans, c'était un sénateur de la Vendée, qui autrefois avait été séminariste, avait pensé qu'il n'avait pas la vocation, s'était fait médecin, un homme de paix, vous savez, un homme tranquille, extrêmement désintéressé, est loyal, en ce sens que dans son programme, il va mettre l'impôt sur le revenu, la nationalisation des chemins de fer, et même les retraites ouvrières, et lui, il a l'intention de le faire. Alors que je vous ai dit que Valdecrousseau avait mis un programme fictif, rassurant le président de la République, disant « je ne le ferai jamais ». Il s'agit d'abord de lutter contre le péril clérical. Alors, toutes les autorisations demandées par les congrégations vont être massivement refusées par le petit père Combe. Attention. On nous dit toujours, massivement, ça veut dire toutes les congrégations sont mises à la porte, ce n'est pas vrai. Père Combe avait décidé que les religieuses contemplatives seraient autorisées à continuer, les sœurs des pauvres et religieuses hospitalières aussi, et du côté des congrégations masculines, les missionnaires, les cisterciens et les trappistes. J'ajoute que le père Combe, personnellement, était un croyant. Certes, il n'était pas catholique, mais c'était un spiritualiste. Il va faire mettre sur sa tombe, du reste, nous nous quittons dans le brouillard et nous nous retrouverons dans la lumière. Il est certain qu'il va s'établir en France à ce moment-là un climat pénible. Les officiers sont surveillés, les fonctionnaires sont surveillés. Et je me rappelle, pardonnez-moi un souvenir personnel, je me rappelle parfaitement que dans ma famille, mon père, qui était très républicain et très anti-religieux, était inquiet parce que sur la demande de ma mère, il nous avait laissé faire notre première communion. Et il s'est dit, la fille d'un fonctionnaire, le fils du fonctionnaire, qui va à l'église, qui va au catéchisme, va faire la première communion, je vais peut-être être évoqué. Il avait peur. Il est parfaitement vrai qu'il y a un climat de suspicion. Mais avant de nous indigner, il faut penser un peu que c'était simplement le retour du balancier, vous savez. C'était la première fois que les catholiques étaient persécutés, mais Dieu sait, ils avaient persécuté les autres. Hein. Pensez un peu à ce qui s'était passé sous Charles X. Et bien plus près de ça, pensez à ce qui s'était passé sous MacMahon en 77. À ce moment-là, c'était le fonctionnaire dont les enfants n'allaient pas à la messe qui pouvait être évoqué. Pensez à M. de Vigny, l'incroyant M. de Vigny, qui à ce moment-là se rapprochait de l'Église, dont j'ai retrouvé une dénonciation qu'il faisait au pouvoir en disant « Attention à ce juge de paix de tel endroit de la Charente, il avait son château en Charente. Ah, il faut frapper ce juge de paix, figurez-vous qu'il conseille aux filles de ne pas se marier à l'Église. » Bon, ben, ça a été un climat pénible, mais c'était simplement le contre-coup. Du côté de l'armée, effectivement, il y avait également des surveillances, et même la franc-maçonnerie ajoutait des indications, fournissait des fiches, donnait des renseignements sur les militaires. La franc-maçonnerie, entre les années 1902, 3 et 4, où nous sommes maintenant, elle faisait exactement, mais en sens inverse, ce qu'avait fait sous Charles X la fameuse congrégation, qui elle aussi surveillait les officiers, surveillait les fonctionnaires et dénonçait les malpensants. Percombe a vraiment eu l'idée, une fois qu'on aura triomphé, et il va triompher rapidement, de cette espèce d'insurrection cléricale, Percombe a vraiment l'idée de passer maintenant à d'autres choses, c'est-à-dire à son programme social. Et il veut faire l'impôt sur le revenu. Alors à ce moment-là, ceux du centre-gauche, qui s'appelle maintenant l'Alliance démocratique, qui le soutenait jusqu'alors, disent « Ah non, minute, attention, hein, pas ça. On veut bien être avec vous tant que vous êtes contre les curés, mais si jamais vous vous tournez du côté de l'impôt sur le revenu, pas question. Et on ne peut pas le dire ouvertement. Impossible. » Alors ils vont trouver une astuce. L'astuce de la droite et du centre-gauche sera la fameuse histoire des fiches. On en parle encore aujourd'hui. On dit qu'il y a un député courageux qui s'appelle Guyot de Villeneuve qui est monté à la tribune en novembre 1904 pour dire c'est tout de même un régime abominable. En fait, tout de même, qu'est-ce que c'est que ces fiches sur chacun des fonctionnaires, sur chacun des officiers, des fiches fournies par la franc-maçonnerie, c'est indigne. Alors on va de nouveau, il s'agit toujours de travestissement en politique, vous savez, on va de nouveau travestir en indignation d'honnêteté, ce qui est tout simplement une manœuvre politique. Et Peggy lui-même va dire, nous sommes en présence d'une nouvelle manœuvre politique. Jaurès fera à ce moment-là un discours admirable pour dire « sera dupe qui voudra, sera complice qui voudra, je sais ce qu'il y a derrière le problème des fiches ». À l'intérieur de son cabinet, Combes est un homme trahi. Il a été obligé de mettre aux finances, succédant à Caillot, Rouvier. Rouvier, c'est l'homme des banques. Rouvier, c'est quelqu'un qui a été commis de banque chez Zafiropoulos, à Marseille, et qui va maintenant créer sa propre banque personnelle, qui s'appellera Banque Parisienne de Crédit pour le Commerce et pour l'Industrie. Alors quand Rouvier voit qu'il y a vraiment une menace du côté du cabinet auquel il appartient, une menace d'impôt sur le revenu, il va faire le termite, il va commencer à miner le ministère, le gouvernement, enfin, de l'intérieur. Et l'affaire des fiches va permettre à un homme comme Mirand, qui était autrefois, oh il n'y a pas longtemps, hein, un socialiste, et qui maintenant regarde du côté de son avancement personnel, ça va permettre à Mirand de faire deux interpellations successives, dans la première où il reproche au gouvernement Combes de ne pas s'occuper assez des problèmes sociaux, et la deuxième interprétation sur l'affaire des fiches, où il va lancer un mot qui aura un énorme succès, c'est un régime abject, écrit-il, un régime abject, qu'aucun honnête homme ne peut tolérer. Non, je me trompe, il a parlé non pas d'un honnête homme, mais il a dit que les honnêtes gens ne peuvent pas tolérer. Et vous savez bien la signification politique du mot « honnête gens » qui avait été créé par Lafayette, ça voulait dire « les possédants ». Alors, de vote en vote, Combes voit tomber sa majorité. Au début de janvier 1905, il n'a qu'une majorité extrêmement faible. Alors il décide de démissionner. Il démissionne fin janvier 1905. Qui est-ce qu'on met à la place? Qui est-ce que le centre-gauche met à sa place? Rouvier, l'homme des banques. Ça, on est tranquille. Hein? Avec Rouvier, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu. Par conséquent, une fois de plus, l'argent avait gagné. Et ce qu'avait dit Clemenceau en 1998 se vérifiait, ils seront toujours les plus forts.